Oula,
vas-y. Bon, alors c'est pas une question, c'est peut-être simplement une réflexion. Voilà, vous avez parlé effectivement que l'Église s'est beaucoup préoccupée d'Ève et de Marie, et j'ai étudié universitairement justement Ève au regard de Marie. Et juste par rapport au fameux péché originel, j'ai été voir ce que disaient les pères de l'Église ancienne, et partout il y avait le péché d'Adam. Et puis petit à petit, il y a eu une migration qui a fait reposer, notamment à l'époque médiévale, enfin à l'époque romane, puisque ça a été mon champ d'étude, la culpabilité soit sur le couple, soit uniquement sur Ève, avec la fameuse réforme grégorienne, qui a été le démarrage, enfin une remise en état de l'Église, et qui a donné le primat, entre autres, de la papauté.
Alors, voilà. J'ai été très vite sur plein de sujets.
Voilà. Non, mais c'était simplement... Et ce qui m'a justement un petit peu frappée, c'est que dans votre ouvrage que je n'ai pas lu, mais cela dit, en même temps, j'ai trouvé très intéressant votre intervention, vous faites référence à l'Évangile, alors qu'en fait, ça serait intéressant, me semble-t-il, de voir la globalité de la Bible, puisque justement la référence à la Genèse est constante. De même qu'au niveau de l'iconographie, la Genèse et l'Apocalypse occupent des places prépondérantes. Et il y a, l'Église catholique fait vraiment un lien entre la Genèse et le dernier livre, l'Apocalypse, en oubliant que l'Apocalypse se termine fort bien. On est là en parlant de terreur, alors qu'en fait, non. Voilà.
Oui, c'est justement ça qui est frappant, c'est que ressort en fait du texte du magistère, non pas toute la Bible, mais une interprétation extrêmement étroite de la Bible. C'est bien ça qui nous a frappés. C'est moi, je m'attendais à ce qu'on ait plein de citations partout. Mais en fait, non, on avait toujours les mêmes. Voilà. Et ça, c'est assez attristant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça attristant du point de vue du niveau de réflexion de l'Église catholique, en fait.
Voilà. C'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes passages bibliques qui sont repris. Et ce n'est pas dans... pas systématiquement dans le contexte, c'est-à-dire c'est uniquement au niveau de l'iconographie, c'est exactement ça.
On en tire toute une philosophie ou toute une théologie. Absolument, oui, c'est ce qu'on a trouvé. Mais j'aimerais bien que vous lisiez le livre pour avoir un retour de votre regard historien, parce que ça c'est extraordinaire. Ah, ça devait être formidable. Enfin, bon, bah, j'aimerais bien savoir si on se rencontre bien.
J'ai eu autant de problèmes, si pas plus que vous, par rapport aux institutions.
J'imagine.
Voilà.
J'imagine très bien. Vous avez publié votre travail ?
Non, mon travail n'a pas été publié. Mon travail, on a bien voulu l'ignorer et le mettre... Voilà, et je suis persuadée, c'est un travail scientifique et c'est un travail qui est établi sur des données très précises et qui est tout à fait sérieux.
Dans ça, j'aimerais bien quel cadre
dans le cadre universitaire, dans le cadre d'un master.
D'une faculté de théologie
D'une faculté d'histoire de l'art. Parce que j'ai traité.
Oui, c'était sur les images.
Voilà, au niveau de l'iconographie.
Ça, c'est passionnant, on aimerait bien lire ça.
Cela dit, depuis, c'est vrai que j'ai donné peu de conférences, mais j'ai aussi un regard qui a évolué par rapport à ce que j'ai écrit.
Oui.
J'ai un bon, à force d'avoir, j'ai un regard qui a évolué. Mais pour moi, je continue à dire que le péché originel, si péché il y a, et si encore il faut reprendre la notion de péché, d'erreur, parce que les Juifs considèrent que c'est l'erreur d'Ève, et d'autant qu'à l'époque, on ne considérait pas une femme comme majeure dans sa pensée, donc
oui,
on ne peut pas lui... le pécheur, c'était celui qui était conscient de... Bon, et le gros, ce que Dieu dit, enfin, ce qui se dit dans le texte, c'est le fait d'ouvrir les yeux à la connaissance, c'est-à-dire d'approcher Dieu. Et c'est ça le problème, c'est de vouloir être comme un dieu, comme des dieux. C'est ça le problème, c'est pas tout ce qui est la forme et compagnie. Hein.
C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé sur finalement comment le magistère utilise ces textes et ce qu'il en sort.
Oui.
Donc il faut pas. Ce travail n'est pas sur. On fait l'exégèse de la Genèse et on dit ce qu'il en sort. C'est pas du tout ça qu'on a fait.
Et on évolue par rapport au père de l'Église. Parce que moi, j'ai été
travaillé. J'ai bien entendu parce que
je l'ai lu
ça, qu'il y avait eu cette espèce de reporter le péché sur elle. Et que Jean-Paul II résume à merveille.
Alors ça, j'ai pas suivi ça.
Ah ben ça, je peux. Ben oui, à merveille. Voilà. Merci. Très intéressant.
Est-ce que vous entendez les échanges qui ont lieu comme ça, ou est-ce que le micro...
C'est bon.
Vous entendez mieux sans micro.
Avec
ou sans? Alors, qui est-ce qui est avec? Levez le doigt.
Et qui trouve que c'est mieux sans?
Je pense qu'il y en a plutôt qui apprécient le sans micro.
Si je me rappelle bien, dans votre livre que j'ai lu donc quand il est sorti, mais donc si je me trompe, vous me corrigez, vous ne reprenez pas l'histoire, je dirais récente, hein, des 40 dernières années, on va dire, du féminisme, des théologiennes féministes. Hein,
non,
il me semblait
vrai.
Pas, vous n'avez pas du tout...
Non, c'est vrai.
Il n'y a pas du tout. C'est du tout juste. Comme si vous... Et puis, excusez-moi de dire, là, vous avez dit... vous découvrez, mais tant mieux. Enfin, moi, je me réjouis pour vous. Hein. Mais je veux dire, il y a donc depuis, on va dire, au moins 40 ans, au moins les années 70, donc tout un courant de travail biblique, théologique, exégétique, militant, social, tout ce qu'on veut, théologique, fait par des femmes, bon, protestantes et orthodoxes, mais aussi sans doute des catholiques. Bon, je ne les ai pas travaillées, les catholiques, donc je ne sais pas.
En fait, on les a découvertes mais... après le livre. On n'est pas tombé dessus.
Votre démarche était à côté, enfin, elle était sincère.
On a travaillé sur la pensée contemporaine, sur ces sujets-là, et on n'est pas du tout tombé sur des gens qu'on a rencontrés après, dans un groupe qui s'appelle la Fédless, catholique, et vraiment, je me suis dit, mais c'est absolument dingue, comme si vous voulez, l'Église catholique, ce qu'on a vécu d'ailleurs après la sortie du livre, avait cette espèce de capacité, de puissance pour écarter tous les gens qui la gênent et les mettre dans les coins. Et quand je les ai rencontrés, je les regardais, j'étais en phase avec eux, on a discuté, on a échangé sur le livre, c'était formidable. Et je leur disais, mais comment ça se fait que je ne vous ai pas connu? Eh bien, je crois qu'il y a une capacité vraiment de l'Église catholique à circonscrire ce qui la gêne. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert après. Et donc, elle reste monolithique comme ça, et ça explique... probablement, votre remarque que je trouve très juste, après, bon, on est quand même tombé sur les religieuses américaines, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas été travailler leur texte à elles. Voilà, on est resté sur notre corpus vraiment magistériel. Déjà, on a élagué 300 000 signes, comme ça, vous avez échappé à peu près un tiers de livres en plus, c'est-à-dire que c'était déjà gros. À faire. Voilà.
comme il fallait qu'on fasse un peu d'histoire, qu'on fasse quand même de la pensée contemporaine, pour avoir vraiment les concepts en tête et être juste dans nos analyses, c'est vrai qu'on n'a pas fait ça. Mais je serais fort intéressée d'avoir des livres d'orthodoxes ou de protestants qui parlent de ça, vraiment. Moi, si je peux avoir des renseignements là-dessus, je serais passionnée, vraiment.
Dans le cadre du dialogue que vous pouvez avoir eu ou, avec l'Église catholique, et c'est clair, vous avez sans doute trouvé des réactions vives, mais aussi peut-être une écoute. Et est-ce que dans cette écoute ou dans ces réactions, vous avez perçu une ouverture, et de quelle nature à la prise en compte de ce que vous dites, de votre thèse?
Franchement, la réception de l'Église catholique, elle est extrêmement difficile.
Elle a même été violente au début. Après, elle a été plutôt dénigrante, c'est-à-dire qu'on nous accusait de fondamentaliste, d'énervé, de on voulait être prêtre. Plus fort.
Unanimement.
Et disons, la presse catholique, relativement unanimement, il nous arrivait des aventures, par exemple, la vie catholique. On a été interviewé deux fois longuement pendant 2 heures, et en fait il en est sorti une petite page qui n'était pas très bonne, alors que la journaliste était vraiment sympa, enfin, on était bien avec elle, et au milieu de tout un truc qui n'était pas inintéressant d'ailleurs, hein, qui était pas mal, mais où on a senti que quand même on nous avait comprimé, mais c'était le seul truc positif qui est sorti dans la presse catholique.
Sauf Goliath, quand même.
Alors, après, il y a quand même des groupes comme le CCBF qui nous a invités plusieurs fois. Moi, j'ai beaucoup discuté avec Christine Pedotti. La FEDLES, qui était quand même un lieu dont je viens de parler, qui est un lieu extraordinaire, qui travaille depuis le Concile et qui a des écrits absolument formidables, des gens comme Alice Gombeau, que je ne connaissais pas.
Peut-être préciser un peu. Oui. Qu'est-ce que
c'est le site, c'est compliqué parce que c'est FHEDLESS et ça rassemble, je n'ai pas en tête, tous les groupes qui rassemblent. Ils ont pris les initiales des groupes et ils ont fait un truc. Donc il y a Le Parvis dedans, il y a... Oui d'accord, Le Parvis, Hommes et Femmes en Église, les éditions Temps Présent et puis plusieurs groupes, le CELI je crois qui était à Versailles. Et donc, par exemple, la revue du Parvis, elle a écrit des choses absolument formidables sur la question de l'égalité des sexes, par exemple. Mais ces lieux sont très petits et surtout ils sont autonomisés, c'est-à-dire qu'il y a peu de liens entre. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tombé dessus. Et c'est là où moi je constate quand même une grande puissance de l'Église, une grande capacité de dégager ce qui la dérange. Après, oui, on a eu des trucs extrêmement, des rencontres extrêmement intéressantes. Bientôt, je vais aller rencontrer la Communion Béthany. Vous connaissez ?
La Communion Béthany.
Lui, je crois, Jean-Michel Dunant, il est à Montpellier. Donc, c'est une communauté de prière sur toute la France, de gens qui sont, il appelle, des homosensibles, des homosexuels, qui sont mal dans l'Église et qui ont envie quand même de croire et d'être ensemble, et des transgenres. Donc il fait vraiment un accueil extrêmement large de gens qui sont en souffrance et qui sont discriminés. De façon assez forte, même si là, je pense que le synode va peut-être faire avancer un peu les choses. Mais je ne sais pas si vous avez vu que le cardinal d'Agen s'est fait insulter en pleine cathédrale parce qu'il avait dit qu'il fallait accueillir les personnes homosexuelles en chaire. Oui, on a fait des très belles rencontres. Le groupe du CELI, par exemple, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, enfin leur petit staff pour faire une conférence, c'est un groupe qui est né quand Mgr Gaillot a été exclu de sa charge. Donc c'est des gens qui vivent, qui font des choses, qui sont très engagés dans l'Église, qui sont... Donc là, on se rend compte aussi que quand on est moyennement bien dans l'Église et qu'on croit, ce sont des gens engagés. Il y a engagés au service des autres. Il y a plein de choses qui se font. Tous ces gens-là que j'ai rencontrés, je suis en admiration devant eux, quoi. Mais peut-être vous aviez autre chose en tête.
Pardon ?
Vous aviez peut-être autre chose en tête.
Non, c'était ouais. Non, parce que... Bon, c'était l'objet d'un livre, vous êtes issu quand même d'un mouvement d'action catholique, où vous avez travaillé, vous étiez aumônier, vous avez donc côtoyé des responsables d'église, donc je pense que ces personnes avec lesquelles vous avez été amené à collaborer, est-ce qu'il n'y a pas eu certaines qui étaient sensibles et qui vous entendaient?
Oui, bien sûr, il y en a. Par exemple, François Bousquet, vous le connaissez peut-être, parce qu'il travaille sur les images.
Alors lui, c'est un grand défenseur.
De même, avec une conférence ici, oui. Le cardinal...
C'est un de nos grands défenseurs.
J'ai discuté avec lui.
Voilà. Donc, on a quelques appuis comme ça. Donc, on a eu la chance, quand on a été voir Joseph Moin, lui a expliqué notre projet, mais il était déjà très avancé. Hein. C'était au mois de mars et on a fini d'écrire fin juin. Et il a accepté. Bon, ça pour nous c'était vraiment c'était vraiment très important. Dans la mesure où il donnait une caution à un projet qui était certes personnel, mais qui était aussi habité par une espèce de révolte par rapport à l'Église, quoi.
Je complète un petit peu, même si je ne sais pas exactement quel est le contenu de son livre, mais Lita Bassé, ça m'avait frappé, théologienne protestante, a été quand même reconnue par l'Église catholique comme un maître spirituel. Bon, or, Lita Bassé, dans ses propos et dans son dernier bouquin, je n'ai pas lu, mais je veux dire, je vois la perspective de sa recherche et de ses affirmations.
Mais
comment se fait-il alors ces contradictions?
Voilà, comment se fait-il? Et ça, c'est quelque chose. C'est une question extrêmement intéressante parce que quand on travaille un petit peu cette question de la philosophie de l'Église, qui est en fait très liée à saint Thomas. Et saint Thomas étant très lié aux penseurs chrétiens, musulmans et juifs des siècles avant lui et pendant d'ailleurs. Ben, on se rend compte que ces gens-là parlaient entre eux. Et donc, ils parlaient entre sages et savants et docteurs. Ils se reconnaissaient comme légitimes dans chaque religion et ils échangeaient énormément. Et saint Thomas, sans les autres, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Et là, l'Église catholique, c'est ça. C'est-à-dire, et d'ailleurs, à l'époque de saint Thomas, c'était pareil. Il ne s'agissait absolument pas que les gens ad intra dans l'Église puissent émettre la moindre remarque ou critique aux sages et aux docteurs qui dicte aux laïcs ce qu'ils doivent penser. Et si je dis ça, c'est que je m'appuie sur un livre d'Elisabeth Dufour qui a travaillé cette question-là de façon extrêmement universitaire. Et en réalité, on se rend compte, quand on lit ce travail sur la philosophie de saint Thomas et comment elle a influencé la théologie de l'Église catholique, on se rend compte que l'Église d'aujourd'hui, avec son magistère et tous ses discours, est toujours dans cette pensée-là. C'est-à-dire qu'elle ne discute pas avec des gens comme nous, qui sommes des laïcs, qui plus est femmes. Par contre, elle va discuter avec Lita Bassé, bien sûr. Je me souviens très très bien de la mort de France Quéré, théologienne protestante, que toutes les catholiques de ma génération, nous on faisait du capté, de l'aumônerie, tout ça, et donc on adorait France Quéré. Mais quand elle est morte et que toutes les catholiques sont allées à son enterrement, je me suis dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas de théologienne catholique. J'avais jamais réalisé qu'il n'y avait pas de théologienne catholique. Parce que le magistère ne discute pas avec ses laïcs. C'est pas possible. Elle sait. Et là aussi, c'est explicite. Dans Humanae Vitae, il y a une phrase qui le dit explicitement. C'est le magistère qui va vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Et bien sûr, vous n'allez rien dire là-dessus. Il est bien évident que personne ne dira le contraire, que le magistère doit vous dire ce que vous allez bien faire. Donc effectivement, nous, on est dans la position de ces laïcs avec qui on ne discute pas.
Et c'est vraiment ce qu'on a vécu. Et honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. Je ne veux pas jouer les victimes, hein, j'en suis pas une du tout. Et je peux très bien vivre ma vie comme ça. Mais c'est vrai que ça m'a surpris. Et en travaillant le livre d'Elisabeth Dufourcq, j'ai compris comment ça fonctionnait, puisque j'avais remarqué que le magistère disait, ben voilà, c'est nous qui pensons, c'est notre mission. Et que dans ce travail philosophique, eh bien, il y a cette pensée qui a des sages et puis qui a les autres. Et voilà pourquoi le premier canon que je vous ai lu est si important.
Oui. Justement, par rapport à la préface de Joseph Moins, alors moi, je ne connaissais pas du tout le nom de ce bonhomme.
Oui.
Je n'ai toujours rien lu de lui, je ne sais pas qui c'est. Il paraît que c'est un grand théologien, comme c'est dit là, j'en sais rien. Moi, je vois pas. Ça veut dire qu'il y a des petits. Enfin, vous voyez, c'est déjà douteux pour moi. Donc, Joseph Moins, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais moi, je ne le connaissais pas. Bon, pourtant, je suis théologienne, protestante et orthodoxe, mais je n'ai jamais entendu parler de ce type. Je m'en fous. Et pourquoi des femmes catholiques comme vous, qui ont fait un travail énorme, parce que moi, votre livre est énorme et passionnant, pourquoi ils ont besoin qu'un mec, Joseph Moins, soi-disant un grand théologien, papiste,
fasse une préface?
Oui, tout à fait. Et puis en plus, il dit un truc, moi j'aimerais qu'il ait que...
Oui, oui, on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il dit.
Oui, enfin, il dit, puis quand même, l'Église catholique, enfin les chrétiens, ouais. Ou je ne sais pas quoi, ou l'Église...
L'Église.
A quand même œuvré à la libération, ouais, des femmes, ta, mais il ne dit pas où, quand, comment. Hein. Moi, voilà. J'aimerais bien savoir où, et quand, là, comment, et qu'il nous dit.
Effectivement, cet argument-là, que Joseph Moins met là, c'est l'argument que tous les catholiques nous renvoient. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de storytelling que l'Église catholique se raconte, que l'Église catholique a libéré les femmes. Mmh. Et alors, à ce moment-là, avec Agnès, on leur dit, ah oui, l'Église catholique a libéré les femmes, mais quand et comment et où? Faites-moi l'histoire de la libération des femmes par l'Église catholique. Parce que nous, ce qu'on a travaillé, c'est bien clair qu'elle a lutté contre la libération des femmes et qu'elle continue. Puisque dans ce fameux synode, on parle de la famille. Qui parle de la contraception? Personne parle de la contraception. On va même béatifier Paul VI, l'auteur inspiré par Jean-Paul II, d'humanité. Donc, si vous voulez, non, elle continue de lutter contre la libération des femmes. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas très contents qu'il ait mis ça. D'autant plus, c'est un argument que beaucoup d'autres ont utilisé contre nous, bien sûr. Voilà. Alors, ça, c'est la première réponse qui, effectivement, c'est un de nos projets, c'est de faire une réponse, à faire un article là-dessus, si on en a le temps et le courage. C'est vraiment une très bonne remarque parce que c'est pour nous quelque chose qu'il faut qu'on approfondisse, puisque c'est une histoire fausse que se racontent l'Église catholique et les catholiques eux-mêmes. Et on ne comprend pas très bien pourquoi, mais bon. Sur la deuxième question, pourquoi il a fallu... et en fait, c'est personnel. C'est pas tellement parce que c'est un grand théologien catholique, c'est parce que la première fois qu'on a parlé de ce livre avec Agnès, c'était au congrès de Lyon, du MCC, du mouvement des cadres chrétiens, où on était ensemble, et puisqu'on s'occupait de la revue à ce moment-là. Et en fait, il a écrit un article dans Études qui quelque part nous a lancé dans le sujet, que moi j'avais beaucoup réfléchi, en disant, ben oui, il faut écrire quelque chose. Et en fait, c'est lui qui nous a lancé dans le sujet et qui nous a presque permis de penser que oui, on allait pouvoir écrire quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a été le voir. On a été lui dire, ben voilà, nous on a écrit un livre parce qu'on a lu ce texte. Et d'ailleurs, on a lu quasiment que ça, puisqu'il le fait remarquer dans sa préface, où il écrit assez drôlement que c'est pas, il n'a pas fait la préface parce qu'on le citait dans le livre, parce qu'en fait on ne cite que cet article qui nous a lancé. Voilà. Donc c'est ça la raison. Après, sur le plan de la théologie, ces bouquins sont absolument formidables. Moi j'en ai lu qu'un, mais il est déjà gros comme ça, mais c'est vraiment absolument passionnant, extrêmement travaillé. Donc c'est quelqu'un qui est à fond, totalement universitaire, et c'est quelqu'un qui n'a fait que ça dans sa vie, c'est-à-dire qu'il a consacré sa vie à travailler. sur ces dernières années, il faut savoir qu'il doit avoir 99 ans. Donc sur les 5 dernières années, il a été sollicité pour faire des conférences et il accompagne des groupes dont on parle, ces groupes qui sont en marge. Lui, il va avec eux. Donc c'est déjà une bonne raison qu'ils nous soutiennent. Et c'est quelqu'un qui est humainement absolument délicieux. Voilà, c'est quelqu'un de formidable. C'est cet homme qui est dans les bouquins. Vous le rencontrez, vous restez une heure et demie avec lui et c'est le bonheur. Voilà. Donc ça peut-être un peu positiver cette question que je comprends en même temps fort bien. Puisque en fait, moi, j'ai refusé de finir ma licence de théologie pour la raison que vous évoquez, c'est-à-dire que je me disais, mais pourquoi ils veulent, j'étais aumônier de la Cato, pourquoi ils veulent que j'ai une licence de théologie? Vraiment, pour ce que j'ai à faire à la Cato, je n'en ai pas besoin. Ça m'énervait. J'avais l'impression qu'on voulait mettre la main sur moi. Et donc, j'avais cette idée que non, je ne voulais pas que les hommes d'église mettent la main sur ce que je pense. Même si je peux lire des hommes catholiques, des théologiens, tout ce que vous voulez, tout m'intéresse. Mais je ne veux pas qu'on me dise, qu'on m'oblige à penser. Voilà, je ne voulais pas être formatée. Donc je comprends très très bien cette question. Voilà, mais peut-être ça l'éclaire quand même positivement.
Enfin, moi, c'est le point négatif de votre livre, c'est cette préface. Alors là, j'étais écœurée, j'ai failli ne pas lire le livre en devant subir ce truc-là. Puis je me dis quand même, je vais aller voir ce qu'elles, elles écrivent. Oui. C'est très différent.
Mais oui, moi, j'aurais voulu intervenir sur ce problème de libération de la femme par l'Église. Oui. Je pense qu'il y a effectivement une libération de la femme par le christianisme.
Ah oui, mais c'est fort différent.
Et que de là, on a malheureusement glissé, comme sur beaucoup d'autres sujets, pas vers libération de la femme par Église, par une assimilation quelque peu hâtive entre la force des textes évangéliques.
Absolument.
L'histoire de la première église chrétienne où il semble quand même qu'il y a beaucoup de femmes en position de responsabilité. Et puis ce qui s'est passé ensuite dans l'histoire où elles ont été ramenées à la cuisine. Voilà. C'est toujours la même chose. Quand on parle de l'église, de quoi parle-t-on?
Voilà,
est-ce qu'on se situe à une période historique? Est-ce qu'on se réfère aux évangiles? Est-ce que... Bon. Je pense aussi que le fait que les réformateurs aient décidé, par exemple, de se marier, a forcément beaucoup changé leur vue des femmes, de la sexualité et de la gestion du pouvoir. Parce que ces questions-là sont très liées entre elles.
Oui, bien sûr. Tout à fait.
C'est une autre question.
Alors, je pense bien sûr que la puissance de l'Évangile a joué, hein, mais pas l'Église catholique.
Moi, ce qui me réconforte, c'est que Dieu nous a créés à son image. Alors, il est homme et femme. Et du coup, pourquoi être complexé? On a notre place dans la société. On fait ce qu'on peut faire en étant porté. Je pense que l'esprit agit en nous dans ce qu'on a à faire. Et puis, par rapport à tous ces complexes, l'homme a une supériorité, la femme, elle la ramène. Enfin, moi, je me dis, il y a eu quand même Vatican II qui nous a quand même libérés. Et à partir de là, il y a eu beaucoup d'ouverture. Hein, donc, chacun a sa place. Et puis... Moi, si un jour on me demande de faire une conférence sur un sujet, c'est pas pour autant que j'ai envie d'être bonne sœur ou curée.
Oui, absolument. Hein,
c'est quelque chose.
De vouloir être voilà. Prête, mais alors pas du
donc,
tout.
Donc il y a quand même une certaine libération qui s'est faite. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une hiérarchie dans l'Église catholique. Bon, ça c'est indéniable. Mais bon, j'ai pas lu votre livre. Hein, j'ai pas lu votre livre et tout, mais c'est.
Oui, mais la libération, elle s'est faite quand même largement par les sociétés civiles, par les acquis des droits, par l'éducation, par l'école, par...
Par la guerre de 14-18.
Oui, ouais. Quoique...
heureusement qu'il y avait les femmes.
Oui, 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 non, mais ça ne veut pas dire qu'heureusement qu'il y avait les femmes. C'est simplement que dans l'idée de l'Église catholique, ça n'a toujours pas vraiment bougé. Sauf que la pression sociale est tellement forte... Que qu'elle va craquer, puisqu'il y a quand même aujourd'hui, malgré tout, des profs de théologie. Il y a des responsables quand même qui ont des postes importants. Les femmes prennent la parole, elles dirigent les chants à la messe, bien qu'on ne permette plus aux petites filles de monter à l'autel. Il y a des choses qui bougent. Oui.
On dit que c'est les hommes qui ont le pouvoir, donc le clergé a le pouvoir, et puis tout le peuple de Dieu, c'est donc les femmes, c'est les seules qui sont au service. Et qu'est-ce qu'on entend? Que le magistère, il ne veut rien entendre. Moi, je me dis, effectivement, il renforce tout ça et il dit aujourd'hui, on ne parle que du manque des prêtres. On ne dit pas que le peuple, il y a moins de baptisés. Et, que, et donc, je me dis, c'est aux femmes la seule solution. Et on est toujours en train de dire, il faut que les femmes nous fassent des petits prêtres. Et puis, qui, et je me dis, il faut que les, c'est aux femmes, est-ce que ce n'est pas aux femmes d'arrêter de faire le service en disant, faisons grève? Parce que c'est pas parler. Il ne faut pas attendre que ce soit les hommes et le magistère qui va dire d'un seul coup, on va vous monter au ciel comme vous, vous aimeriez le faire, comme on a monté la Vierge Marie, quoi. Donc je me dis, il y a, qu'est-ce que votre position par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un problème? Il faut dire, c'est pas aux femmes à dire non pour montrer qu'elles sont là, que les, le baptisé, le prêtre, prophète et roi, il est là en tant que femme.
Oui, mais c'est très difficile parce qu'en fait, je parlais de représentation, c'est tellement intériorisé, je suis tellement d'accord avec
vous.
Mais c'est tellement intériorisé que avec Agnès, on se raconte parfois des rencontres qu'on fait, alors des amis catholiques qui nous regardent à peine, qui n'osent pas nous parler, parce qu'elles auraient trop peur qu'on leur dise ce que vous dites là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une intériorisation catholique de la place des femmes. Et c'est extrêmement compliqué. Et ce que vous dites là, moi, je suis aussi tout à fait d'accord avec vous. Soyons nous-mêmes, tout simplement. Mais c'est pas fait, hein. Du tout. Du tout, du tout. Et pourtant...
Joseph Moïse, quand il dit que tout notre christianisme, il est né par une rumeur de femmes.
Et oui.
J'ai beaucoup aimé ça. Oui. On dit que c'est les bonnes femmes qui racontent.
Voilà.
Et il insiste beaucoup là-dessus. Et ça, c'est très beau à entendre et puis à méditer quand même.
Hein. Tout à fait, tout à fait.
Parce que c'est les femmes qui ont été au tombeau qui dit, voilà. Qui dit qu'il est ressuscité. Voilà. Hein.
Oui, mais enfin, ce qui est curieux quand même, c'est que l'évangile de Marc se termine par « Elle ne dit rien à personne parce qu'elles avaient peur. »
Il n'a pas pu s'empêcher.
Et pourtant, on est là. C'est quand même un grand mystère.
C'est vraiment sexisme qui marque.
Non, je ne crois pas. Non, je pense que c'est vrai, ça s'arrête là. Mais elles ont quand même causé, finalement.
Elles peuvent pas s'empêcher.
Ah, un autre petit relent de sexisme. Pour rire, j'espère.
Jean-Pierre chantait « La femme est l'avenir de l'homme ».
Oui.
Dans l'église, c'est pareil.
Je me demande aussi s'il ne faudrait pas baisser l'importance de la sexuation, c'est-à-dire considérer qu'on est des personnes et être un peu moins obsédé par le fait qu'on est homme ou qu'on est femme. Si vous voulez, là, quand on parle, ce n'est pas très important de savoir si on est homme ou femme. C'est important quand on est marié, quand on pour avoir des enfants, tout ça. Mais est-ce qu'on ne survalorise pas, tout en étant dans le déni dans l'Église catholique du sexe? Est-ce que du coup, on est ou dans le déni ou dans la survalorisation? Si on baissait un petit peu la pression de ce côté-là, ce serait plus simple, les relations. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis.
Oui, c'est là tu d'ailleurs qu'on se rend compte de tout l'aspect finalement un peu contestataire et qui fait bouger les choses de l'homosexualité. Parce que là, justement, on ne se pose plus, les questions de la même façon par rapport au sexe de la personne en face.
Tout à fait.
Et que l'existence des homosexuels et leur prise de parole dans la société, d'une certaine façon, libère la présence, la parole des femmes et fait baisser la pression, justement, sur cette différence sexuée, quelquefois bien pénible à vivre.
Tout à fait, oui, c'est vrai.
Alors, il y a encore deux questions, là.
Ce n'est pas une question, c'est simplement une information que je donne. Circule sur Internet pour le moment, mais bientôt sur la Arte, donc dans l'émission de philosophie, le dimanche, il y a Raphaël Enthoven interview Delphine Orvillère. Et vous allez trouver des choses qui sont des...
Dis qui c'est Delphine Orvillère.
Pardon ?
Les gens ne savent pas qui c'est Delphine.
Oui, alors Delphine Orvillère, c'est une des deux rabbins libérales du judaïsme français. L'autre rabbin qu'on a eu ici... qui s'appelle donc de Madame Bebe, Pauline Bebe, voilà. Mais c'est ce qui est intéressant, puis je vais m'arrêter là, elle dit une chose qui m'a intéressé, elle, à un moment donné, elle dit, ben finalement, dans le système juif, mais enfin qui est proche du nôtre hein, quand même, bon, les hommes sont soumis à Dieu et les femmes sont soumises aux hommes. Voilà. Donc... Et puis, elle fait un petit travail sur le corps de la femme à partir d'un tableau, mais vous verrez. C'est...
Le livre de Delphine Orvillère ?
Non,
Pauline.
C'est Delphine Orvillère.
C'est une émission.
Bah, oui, je l'ai partagée, tu as dû la recevoir, je t'ai envoyé. Mais bon, ça circule sur Internet, mais ça doit passer dimanche prochain.
D'accord, je vais regarder. C'est quelqu'un avec qui on a beaucoup discuté.
Ah oui, d'accord.
Parce que j'ai écouté une de ses conférences assez tôt quand on écrivait le livre, et c'était assez fascinant pour moi de voir à quel point elle était dans les mêmes mécanismes. Et donc, du coup, on a échangé avec elle, j'ai lu son livre et tout, mais c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire.
On va passer de l'autre côté, là.
Voilà.
Bon, je vais quand même parler, quoi. J'ai des amis catholiques qui ont des responsabilités sociales très importantes, intellectuelles, qui sont des leaders dans la vie sociale, mais une fois dans l'Église catholique, c'est l'obéissance. Et j'ai envie de dire, mais il faut que les femmes catholiques fassent la désobéissance, s'engagent vers la désobéissance. Il n'y a rien à faire. Parce que c'est étonnant que des personnes adultes, responsables, aient une fois dans le domaine de l'Église, voilà, on est soumise, on est... Voilà. Moi, je suis pour la désobéissance et je pense qu'il faut une solidarité œcuménique aussi.
Mais j'en reviens à ce que tu disais. C'est très difficile d'être catholique, d'être libre dans sa pensée, d'être désobéissant, comme vous dites, parce que vous êtes écarté. Je vous assure que je passe à côté de gens que je connais bien et qui ne me parle plus. Voilà. Vraiment. Et Agnès a la même expérience, elle est plus jeune que moi, je l'avais déjà vécu avant, donc franchement, je le vis tout à fait naturellement, mais en me disant, ce que vous dites là, mais on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Et je vis dans un milieu de catholique, en fait, j'ai un mari qui est encore très engagé au MCC, très pratiquant, et j'ai beaucoup d'amis catholiques. On n'y est pas encore.
Il y a encore une question là-bas. Une question là-bas.
En fait, c'est pas une question. Moi, je suis totalement étrangère à toutes vos préoccupations, parce qu'en fait, je me considère comme athée, j'ai été baptisée, et en fait, le fait qu'on soit infériorisé comme ça tout le temps, je me suis écartée de la religion. Donc, vous disiez qu'en fait, il ne faut pas que les femmes se croient... Enfin, moi, j'ai élevé ma fille de façon à ce qu'elle soit fière d'être une fille. Et je l'ai fait baptiser parce que j'avais promis au curé d'avoir des enfants, sinon il ne me mariait pas et mon mari voulait que je me marie avec lui à l'église. Donc, j'ai fait tous ces simulacres pour vous dire que moi j'ai pas toutes les connaissances que vous avez, mais je viens vous écouter parce que je suis ouverte à tous les propos et je trouve oui que les femmes sont trop obéissantes et puis chaque fois qu'on dit quelque chose qui ne va pas dans le sens du poil, on se fait traiter de féministe. Ben moi, moi, je suis féministe.
Voilà. Ouais. Et du coup, si vous êtes de Bruxelles, librement, avez jugé avec sagesse, en fait, qu'il y avait un vrai problème, sans approfondir, donc, finalement, on a approfondi cette question-là. Et on sait très bien que tant de femmes sont parties de l'Église catholique, tout en gardant un amour de l'Évangile, par exemple, ou pas. Mais elles sont parties parce qu'elles étaient mal à l'aise, parce qu'elles savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
En fait, il n'y a pas de religion catholique que je ressens.
Non, parce que...
C'est pas normal qu'on soit mis à l'écart comme ça. Je me sens égale de n'importe qui sur Terre, et je ne vois pas pourquoi je serais moins que quelqu'un d'autre.
Absolument. Je suis bien en accord avec vous.
Ouais. Je voulais terminer sur... Vu de l'extérieur, en tant que protestant, j'ai deux notes positives quand même qui me font penser qu'il y a des choses qui évoluent. La première, c'est effectivement que le débat au sein de l'Église catholique est quelque chose qui devient et reconnu comme nécessaire et recherché par pas mal de en tout cas de catholiques qu'on approche et qui disent oui, il faut... Et ça a été quand même le cas, mais... Après le passage de la loi, l'Église catholique ou la hiérarchie catholique au niveau national a reconnu qu'il fallait introduire sur des sujets de société un débat interne à l'Église. En tout cas, c'était l'affirmation qu'il disait ou que j'ai lu. Deuxième chose, il me semble que la prise de responsabilité du nombre de laïcs qu'on voit autour de nous, de toute façon, c'est un signe d'évolution qui fera un jour ou l'autre qu'il y aura une importance forte. Hein,
et c'est déjà à l'œuvre. Dans la façon dont le questionnaire a été donné aux évêques sur le synode, il y a eu comme une effraction des laïcs, parce qu'on a dit que c'était pour les laïcs, mais pas du tout, c'était pour les évêques. Simplement, les laïcs s'en sont emparés, alors plus ou moins, en fonction des pays, en fonction des évêques, ils ont mis au jour, ils ont fait secret ou pas secret, etc. Mais il y a aujourd'hui une énorme pression sur le collège des évêques qui est réuni là. Ils le savent.
Bien sûr.
Donc c'est là qu'effectivement nos plaques tectoniques, elles sont en train de bouger fortement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est beaucoup plus les gens qui sont sur le point de partir, qui sont un petit peu comme madame là-bas, ce sont ceux-là qui font bouger. Et malgré tout, globalement, je pense qu'ils partent plus qu'ils ne restent aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même une ambiance aujourd'hui dans les églises, très Jean-Paul II, très pieuse, très identitaire, et qui est extrêmement difficile à vivre si vous avez la sagesse de comprendre qu'il y a un problème de positionnement homme-femme. Donc, ça peut bouger, mais ça peut crouler.
Bien, ben, je pense que
sur la puissance des laïcs.
Encore un petit quelque chose.
Justement, pourquoi au tout début, donc vous l'avez repris juste maintenant, avec la dame, qui elle dit je suis féministe. Pourquoi vous dites bon le féminisme a une connotation négative. Bon, on est d'accord dans l'Église catholique hiérarchique institutionnelle pour la hiérarchie, bien sûr, mais pourquoi vous le revendiquez pas. Je veux dire. À chaque fois, depuis des décennies, les féministes sont humiliées, culpabilisées. Oui, une féministe, c'est une salope, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, toutes les pires ordures, on les dit sur les féministes, alors qu'on a le droit quand même, merde, d'être femme et de réclamer nos droits. Enfin, c'est élémentaire.
Oui, moi, je dis que je suis
féministe. Oui, non, mais oui, je veux dire, pourquoi ne pas dire à ces mecs et à moi et à d'autres, bah oui, on est féministe, et alors ça te défrise. Je ne sais pas comment dire, pourquoi dire au roi non pas passement, non on n'est pas féministe parce que c'est mal vu.
Oui.
Moi je pense que ça dépend de le 5 novembre sur religion, politique et engagement, quelle parole publique, quelle parole des églises dans l'espace public. Voilà.